Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour chers auditeurs, auditrices, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous allons nous transporter en Éthiopie. Il y avait longtemps que nous n'en avions parlé et nous allons nous transporter à l'arrivée du christianisme. Pour nous guider dans ce voyage, je suis en compagnie de Marie-Laure Derat.
Bonjour.
Bonjour. Directrice de recherche au CNRS et historienne de l'Éthiopie médiévale, notamment pour l'histoire du royaume chrétien entre la période du XIe et du XVe siècle, et aussi d'un site exceptionnel, incontournable, qui est celui de Lalibela. Pour ceux qui ont connu l'Éthiopie, pour ceux qui ont eu la chance de le visiter, notamment aux périodes des fêtes religieuses que l'on appelle Timkat, je crois que c'est la période de l'Épiphanie, c'est un souvenir qui reste impérissable. Alors ce matin, nous allons tenter de décrire le mieux possible la pénétration de ce premier christianisme en Abyssinie. Je crois que nous sommes dans un cadre très particulier, celui d'un petit royaume qui s'est constitué dans le nord de l'Éthiopie actuelle, autour d'une ville qui s'appelle Aksum.
C'est bien ça, tout à fait. Au cours du premier siècle de notre ère, émerge un royaume autour d'une ville, Aksum, dans les hautes terres éthiopiennes. Alors, ces hautes terres, elles sont situées en Afrique de l'Est, dans une région qu'on appelle la Corne de l'Afrique. Cette corne, en fait, elle est délimitée d'une certaine manière par deux océans ou deux mers. D'une part, la mer Rouge au nord et plus au sud, l'océan Indien. Et donc, cette corne est en contact d'une certaine manière, non seulement avec l'Afrique, bien sûr, mais avec la péninsule arabique, l'Égypte plus au nord et tout ce qui est Proche-Orient, et puis avec l'Inde et donc le grand commerce en général. Et ce royaume d'Aksum est précisément au carrefour de routes de commerce, en particulier des routes navigables. Et c'est la raison pour laquelle il se développe au cours du 1er siècle. Il devient une zone pivot pour le commerce des éléphants de guerre, de l'ivoire, des esclaves, de l'or. Et en contact avec l'Empire romain, ce royaume se développe sur la base de ce trafic commercial.
Donc une plaque tournante entre continents, bien entendu, vous l'avez évoqué, cette Arabia Felix, d'une certaine manière, qui est le Yémen, je crois, d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Et le reste du continent africain, plus au sud, le débouché des grands fleuves, peut-être.
Alors, oui, les fleuves ont peut-être un rôle dans la navigation, mais c'est vrai qu'en Éthiopie, on est tellement haut, pour vous donner une idée, hein, les hautes terres dont on parle généralement, ce sont des plateaux qui culminent à 2500-3000 mètres d'altitude en moyenne. Et puis on a des sommets beaucoup plus élevés dans les 4000-4500 mètres, donc on est quand même très très haut. Donc la navigation par les fleuves, c'est quelque chose qui se fait très bas, je veux dire parfois il y a 2000 mètres de dénivelé pour atteindre ces fleuves dans des canyons extrêmement profonds. Donc, c'est pas tant les fleuves qui permettent précisément de faire du commerce avec les autres zones, les choses se font à pied. Et les Éthiopiens, toujours aujourd'hui, sont quand même de très grands marcheurs et on le sait, de très bons marathoniens.
C'est fascinant quand on voyage en Éthiopie, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, on voit effectivement des gens qui marchent sur des routes complètement isolées, complètement perdues, on se demande où vont-ils finalement.
Eh bien, la plupart du temps, ils vont sur le marché
tout
ou à l'église.
Alors nous avons quelques traces historiques de ce premier christianisme chrétien. Alors je ne sais pas d'ailleurs si cette expression est bien premier christianisme, parce qu'il y a eu plusieurs époques, peut-être même avec des coupures entre ces périodes. Là nous sommes au 4e siècle, donc dans ce royaume d'Aksum, au nord de l'Éthiopie actuelle, et nous avons quelqu'un qui s'appelle Frumentius, tout début du 4e siècle, qui arrive et qui convertit, dit la légende, le roi.
Oui, alors en fait, on a le témoignage de concernant Frumentius via un auteur latin, Rufin, de la ville d'Aquilée. Et Rufin traduit au cours du IVe siècle, à la fin du IVe siècle, l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée a fait une histoire qui raconte en particulier la vie de Constantin. Et cette histoire s'interrompt au début du IVe siècle, vers 323, si je me rappelle bien. Rufin donc fait une traduction latine de cette vie, de cette histoire ecclésiastique, et puis complète l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée de 323 jusque 395, très précisément. Et c'est dans cette partie qui est propre à Rufin que l'on trouve le récit de ce que l'on considère comme étant le récit de la christianisation de l'Éthiopie au IVe siècle.
Donc la toute première trace de christianisme, en fait, apparaît dans ce texte-là.
Voilà, alors on a plusieurs traces, des traces textuelles, des traces numismatiques, donc des monnaies sur lesquelles on voit des croix apparaître, et puis on a aussi des traces épigraphiques, donc des stèles sur lesquelles des textes sont rédigés, et ces textes disent que à un moment donné, un roi désormais dit être croire en Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit.
Et qu'était sa religion alors avant? Est-ce qu'on le sait, ça?
C'est une bonne question, parce que à la fois on a des indices sur les religions antérieures au christianisme, et je dis bien les religions, hein, c'est sans doute pluriel, mais on a quand même peu d'éléments très précis. Alors ces indices, quels sont-ils? Par des sources assez tardives, des vies de saints rédigées au XIVe, XVe siècle, on sait que, il est dit par les Éthiopiens eux-mêmes que la religion antérieure au christianisme, c'était une religion qui avait un culte pour le dieu serpent et aussi pour certains arbres. Et en gros, on donnait des vierges à ce dieu serpent régulièrement et d'une certaine manière, la population était sous le joug de ce dieu serpent. Ça, c'est la manière dont, au XIVe siècle, les Éthiopiens eux-mêmes racontent la religion qui est antérieure au christianisme. Et puis, on sait aussi que dans la région, du fait en fait des échanges constants entre la péninsule arabique et en particulier les royaumes sabéens et l'Éthiopie, il y avait l'arrivée en Éthiopie, enfin l'influence en Éthiopie des religions sabéennes, de la religion sabéenne, et donc il y a aussi des formes de culte sabéen qui sont présents avant le christianisme.
Mais sur la zone côtière peut-être, est-ce qu'ils sont vraiment pénétrés dans le...
Ils ont pénétré parce qu'on a trouvé des temples sabéens sur les hautes terres, pas très loin d'Aksum, donc on a le témoignage cette fois-ci physique, architectural, de ces religions sabéennes en Éthiopie avant l'arrivée du christianisme. Maintenant, quelle proportion de la population vouée un culte aux religions sabéennes, vouée un culte à un dieu serpent qui n'est pas tout à fait certain, on ne sait pas.
Et même chose peut-être pour le christianisme après, une influence qui s'est faite en douceur. Alors, vous allez nous lire tout à l'heure un petit passage, bien sûr, de cette description, donc de Frumentius qui arrive dans le royaume d'Aksum. Est-ce qu'on sait si le christianisme, si lui-même venait peut-être par le Nil, venait peut-être par la mer Rouge, d'où venait-il? Venait-il d'Égypte, peut-être?
Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la première christianisation. Et à juste titre, parce que, de fait, la première christianisation, vraisemblablement, vient par la mer. Et elle vient, comme nous en donne le témoignage Rufin, via des commerçants et via des voyageurs qui arrivent par la mer au royaume d'Aksum. Mais il y a plusieurs phases dans cette christianisation. Et de fait, on parle d'une seconde christianisation à compter du 5e, 6e siècle de notre ère. Cette fois-ci qui fait arriver en Éthiopie des moines. Et le développement du monachisme en Éthiopie est particulièrement important pour, en fait, le développement du christianisme. Et ces moines sont venus par l'Égypte, plus vraisemblablement que par la mer cette fois-ci. Donc on a bien des phases très différentes, en fait, de christianisation. Et ce sont des moments que l'on connaît pas très très bien quand même. Alors je vais vous lire un extrait donc du texte de Ruffin d'Aquilée qui nous parle de la manière dont Frumens christianisa la région. Comme il vivait ainsi et que Frumentius Frumens avait en main les rênes du royaume, sous l'inspiration et à l'instigation de Dieu, il entreprit de rechercher très soigneusement s'il y avait des chrétiens parmi les négociants romains. Et, leur donnant toutes les facilités, il les engagea à établir, en chaque endroit, des lieux de réunion où ils se rassembleraient pour prier selon l'usage religieux romain. Mais lui fit de même, et bien plus. Il exhorta ainsi les autres, il les stimula par son appui et ses faveurs, il fournit tout ce qui pouvait être utile, il donna des terrains pour les édifices et tout ce qui était nécessaire, et il agissait en tout avec le vif désir que dans ce pays levât une moisson de chrétiens.
Est-ce que c'est ce roi qui faisait mettre la croix sur ses pièces?
Alors, effectivement, Frumens est contemporain d'un souverain dont le nom est Ezana. En fait, Ezana est un jeune garçon lorsque Frumens arrive en Éthiopie et à Aksum. Et c'est la mère d'Ezana qui demande à Frumens de rester à ses côtés pour l'aider à gouverner le royaume en attendant que Ezana soit en âge de régner. C'est toujours selon le témoignage de Ruffin. Hein. Lorsque Frumens prend d'une certaine manière les rênes du royaume, il est en position justement de favoriser à la fois la création de lieux de culte pour les chrétiens présents à Aksum, ces commerçants romains dont parle le texte, mais aussi de donner des terres pour favoriser, là encore, le développement de lieux de culte et cette fois-ci pour attirer dans la nouvelle religion les personnes d'Aksum, non christianisées.
Dans Chrétien d'Orient, ce matin, nous sommes avec Marie-Laure Dera pour évoquer l'arrivée de ce premier christianisme en Abyssinie, en Éthiopie, disons dans ces confins d'Afrique de l'Est. Une autre question par rapport à cette première phase, est-ce que nous avons une idée des langues qui étaient parlées à l'époque, à la fois par Frumens et par ces gens du royaume d'Aksum?
Alors, Frumens est originaire de Tyr, en Syrie. Donc, Frumens, vraisemblablement, parle le syriaque ou l'araméen. Ou on ne sait pas tellement la langue de Frumens, mais c'est peut-être ce qu'on sait le mieux. Pour ce qui est des Aksumites, on connaît leur langue par ce qu'ils écrivent. Et ce qu'ils écrivent, ce sont donc des stèles sur lesquelles on trouve généralement des célébrations des victoires des souverains. Et ces stèles sont rédigées en plusieurs langues. En grec, en gaise, qui est la langue actuellement la langue liturgique des chrétiens d'Éthiopie. Et puis en ce que l'on appelle un pseudo-sabéen, c'est-à-dire qu'ils écrivent en gaise, mais avec un alphabet sud-arabique, sabéen. Ils utilisent une langue en fait qui mime le sabéen. Ils rajoutent des expressions qui donnent l'impression qu'ils écrivent du sabéen, comme si aujourd'hui en français on essayait de faire du franglais. Voilà. Donc ils font du gezo sabéen.
Et le grec, avez-vous dit, donc ce oui. Qui montre que nous sommes, d'une certaine manière, dans cette grande zone d'influence de l'hellénisme.
Tout à fait. On est dans la zone d'influence de l'hellénisme sur laquelle l'Empire romain est venu se poser. Et donc, les chrétiens qui sont présents, les marchands chrétiens présents à Aksum, sont de langue grecque. Et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle cette présence d'une communauté grecque à Aksum, liée au commerce de ce royaume, oblige les souverains à écrire des stèles de victoire dans des langues qui s'adressent non seulement au peuple présent, mais aussi aux commerçants étrangers, et donc en grec.
Alors nous ne pouvons pas parler de l'Éthiopie sans évoquer le site que j'évoquais, dont je parlais pardon, en introduction, le site de Lalibela. Alors là j'ai l'impression que nous sommes dans une étape bien ultérieure de ce christianisme éthiopien et qui fascine toujours d'abord ceux qui visitent l'Éthiopie, ceux qui s'intéressent à l'Éthiopie et qui est le marqueur principal de cette identité chrétienne en Éthiopie. Que savons-nous exactement sur la Libella ?
Alors la Libella, on sait à la fois beaucoup de choses et en même temps les travaux qu'on mène là-bas depuis 2009 nous montrent que l'on a encore beaucoup à apprendre et c'est tant mieux d'une certaine manière. Alors la Libella, c'est un complexe d'églises rupestres. Il y a en tout 12 églises aujourd'hui sur le site de la Libella, entièrement taillées dans la roche. Certaines sont en forme de croix. Elles sont sous le niveau du sol. Certaines donc sont en forme de croix, d'autres sont des petites basiliques. C'est quand même un site assez impressionnant, et il faut bien le dire. Pendant longtemps, on a considéré que la Libella était la capitale du royaume d'Éthiopie pendant le règne d'une dynastie qui aurait régné du 12e au 13e siècle environ. On sait pas bien quand est-ce que commence à régner cette dynastie. Et dans cette dynastie, il y a en particulier un personnage, le roi la Libella, celui à qui on attribue la fondation de ces églises, donc, et qui a donné son nom à ce site. On a cherché récemment à vérifier si de fait ce la Libella pouvait être la capitale du royaume. Il y a très peu d'éléments qui permettent de le confirmer, en tout cas d'un point de vue archéologique, aucun. En revanche, ce qui est certain, c'est que on a là des églises et on a surtout là un site qui a été transformé, très longtemps transformé, dans le temps régulièrement, mais les traces les plus anciennes que l'on a datent des 10e, 11e siècles, donc bien avant l'arrivée du roi la Libella dans la région, puisque la Libella règne à la fin du 12e au début du 13e siècle. Donc deux siècles avant ce fameux la Libella, il y a une occupation de la région qui est importante parce que sont déjà construits des murs monumentaux donc des constructions et non pas des creusements.
Mais point d'église encore.
Pas d'église encore.
Donc ces églises creusées, cet âge classique, disons, de la Libella, daterait de la fin du XIIIe siècle à peu près.
Daterait de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle.
Alors là, nous sommes beaucoup plus au sud que le royaume d'Axum dont nous parlions, et nous sommes plusieurs siècles après. Que s'est-il passé pendant cette période intermédiaire? Est-ce que nous avons des informations?
C'est là que finalement on a tout à chercher, et c'est précisément ce sur quoi moi j'essaye de travailler en ce moment. C'est que effectivement on commence à un peu mieux connaître la première christianisation et de ce qui se passe à Axum au 4e, 5e siècle, 6e siècle. Axum décline au 7e siècle progressivement, vraisemblablement du fait du développement en fait de l'islam, de la prise en charge des routes commerciales par les Arabes, et le commerce est désormais aux mains de ces commerçants arabes, et si bien que Axum perd cet accès à la mer et perd ce qui fait sa richesse. Donc le déclin d'Axum au 7e siècle intervient donc dans ce contexte, et après, on perd les informations. On n'a plus de textes, on n'a plus de monnaie, on n'a pratiquement plus rien, on n'a plus que l'archéologie. Mais l'archéologie est assez peu développée, finalement, en Éthiopie, par rapport à ce qu'on peut trouver sur le Proche-Orient, ce qui peut se faire en Syrie, par exemple. Pour l'instant, peu d'informations. Ce qu'on sait, c'est que après le 7e siècle, se développe toute une région qui est parsemée d'églises, à l'est d'Axum et vers le sud, et qui témoigne de l'émergence d'une élite, sans doute politique, mais pas seulement, suffisamment riche pour faire construire de nombreuses églises, des églises construites, mais aussi parfois des églises creusées dans la roche. Et au fur et à mesure, finalement, le christianisme progresse vers le sud de cette manière. Vous voyez, les étapes de cette progression, on les connaît très mal. Et d'une certaine manière, la Libella, fin 12e, début 13e, transformée en église, marque l'une de ces étapes. Et la christianisation arrive sans doute assez tard dans cette région.
Pour bien comprendre, on peut constater ce déplacement du christianisme éthiopien vers le sud, à des époques successives, comme vous le dites, par l'archéologie, mais finalement on ne sait pas vraiment pourquoi.
Non, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ce qu'on peut dire sur la base de ce que l'on sait à la Libella, c'est que lorsque, au XIIe, XIIIe siècle, le site est transformé en église, et change beaucoup à ce moment-là, on crée de toutes pièces des églises également, il y a déjà sur place une société et une élite très avancée qui a déjà été capable de creuser et de construire des choses monumentales. Mais c'est tout ce que je peux vous dire.
Est-ce que l'on sait pourquoi ces églises sont creusées ?
Eh bien, pourquoi creuser, pourquoi pas construites ? On a plein d'hypothèses et pour l'instant, je pense qu'aucune ne répond vraiment à cette question. L'une des hypothèses, c'est de penser qu'on a souhaité se dissimuler aux yeux d'ennemis potentiels. Mais finalement, on n'est pas très dissimulé quand on est creusé sous forme de croix comme cela. Donc ça marche pas très très bien. Enfin, le site de la Libella est un site qu'on voit assez bien finalement. De l'extérieur. On a pensé, une autre hypothèse est liée au fait que y a un choix en fait d'être près de la roche-mère pour inhumer les chrétiens. Et ça, je pense que c'est, disons, j'y crois un peu plus à cette raison-là, de creuser dans le rocher pour créer avant tout des sépultures surmontées d'églises. Et de fait, à la Libella, avant tout, nous avons des églises qui abritent des tombes.
Nous étions ce matin en Éthiopie avec Marie-Laure Derat. Merci beaucoup. Je ne peux que vous réinviter maintenant pour que nous continuions la suite de cette aventure éthiopienne après la Libella.
Avec grand plaisir.
Je remercie pour la réalisation de cette émission d'Annie Journeau, Anne-Catherine Lochard, Bernard Laniel. Et nous retrouvons maintenant le service protestant avec Michel Schaeffer. Merci. Thank you.